Femme de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis. Vous pouvez le télécharger sur ma page Facebook Reine de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots ou vous abonner à ma newsletter pour vous tenir informé du dernier épisode. En ces deux vendredis qui précèdent les fêtes, j'ai envie de vous faire des cadeaux. Que diriez-vous d'écouter des histoires comme celles que l'on entend au coin du feu ? Pour celle d'aujourd'hui, j'ai demandé à une grande conteuse de la région de m'en préparer une. Janine Vorp a eu la générosité d'accepter. Elle a en plus bien voulu parler de ce don qu'elle nomme justement un cadeau. Cette enthousiaste aime se lancer dans de nouveaux projets qui lui disent oui. Alors disons oui à l'enfant de Crémine qui aime raconter des histoires depuis toute petite. Enseignante au primaire, elle est venue s'installer à Bienne il y a des décennies. Arrivée à la retraite et au bénéfice de 40 ans de théâtre amateur, elle s'est mise à compter de façon régulière. Celle qui vient de fêter ses 80 hivers, la saison de sa naissance, et ça tombe bien, nous raconte son parcours avant de déballer un cadeau magnifique, une histoire qui nous rapproche de toutes les personnes laissées pour compte. Nous leur dédions la chaleur et l'humanité de ce podcast. Et pour la petite histoire, elle a été enregistrée le 29 novembre dernier dans les tout nouveaux studios de Mute Radio, sous les gradins de la Gurtzelen. Un coup de chapeau à Étienne Ducommun pour la technique. Dans une ambiance rouge et noire, il ne manquait que la cheminée. Oh, 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 oyez, gentes personnes et petits enfants, assoyons-nous et écoutons. Bonjour Janine.
Bonjour Isabelle.
Janine Vorp, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
De ce que j'aime énormément maintenant, les contes, entre autres, puis peut-être un peu de ma vie autour d'eux.
Et pourquoi donc le conte, il t'a toujours suivi ? Comment tu t'y es mise quand au conte ?
Alors, bon, quand j'avais 6 ans, je racontais à ma sœur des histoires, je l'obligeais à m'écouter. Le soir, elle dormait dans la même chambre, on avait froid, je disais, tu m'écoutes ? Je te raconte que... Oh! Bon, ça c'était une des premières fois, et puis après, ben, à l'école un peu quand même. Mais même si on avait beaucoup d'albums pour vraiment lire, écrire, mais les histoires, elles étaient toujours là. Soit, oui. Mais disons, raconter vraiment comme je fais maintenant, ça a commencé la première fois pour adultes, c'était en 90 au Landron, comme spectacle, si tu veux, comme soirée, mm-hmm. avec Marianne Finazzi. Là, c'était pour adultes. C'était la première fois. Puis après, il n'y a plus rien eu de ce style. Et puis après, il y a eu les bibliothèques qui m'ont demandé, la bibliothèque de Bienne. Il y a eu la bibliothèque de Nidau assez rapidement, puis petit à petit d'autres, la Neuville, enfin d'autres bibliothèques ici autour. Et puis après, ben, d'autres lieux, des vieux, des jeunes, des classes, et puis voilà.
Tu ne t'es pas vraiment formée en fait alors, tu répondais à la demande, mais tu t'es formée, parce qu'il y a des conteuses professionnelles qui se forment, je crois qu'il y a une école même, non ?
Et disons, il y avait à Bienne en tout cas, le groupe du mouvement des aînés. Mmh. Et elles pouvaient se retrouver régulièrement avec des gens qui venaient soit faire des conférences, soit elles allaient à Neuchâtel avec tout ce groupe. Et j'ai vu récemment, je suivais un stage de compte à Savanier il y a un mois à peu près, et là, il y avait beaucoup de ce genre de dames qui fonctionnent, même pas tellement âgées, mais elles fonctionnent mm-hmm. dans ce groupe. Et puis, c'est vraiment quelque chose d'assez fort en Suisse romande.
Elles sont formées, je
elles
crois.
Elles sont formées, elles ont surtout possibilité de voir des gens, de suivre des stages mm-hmm. de ce genre-là.
Mais toi, ce n'est pas ton cas.
Eh bien, moi, je l'ai fait un peu à ma façon, d'abord. Mm-hmm. Et puis, ces dames, elles étaient étonnées de me dire, « Ah, mais tu viens quand ?» Je dis, « Ben oui, je viens. » Maintenant, ces dernières années, là, j'ai eu envie de suivre des stages. J'en ai suivi 3 avec Henri Gougaud, parce que je l'admire comme auteur, comme conteur. Et puis maintenant, 2 avec Micheline Denocq, et le dernier, c'était justement il y a un mois, et là, c'est assez fascinant aussi.
Et qu'est-ce que ça t'apprend chaque fois autre chose ?
Ah oui, vraiment.
Tu Alors, changes ta manière de conter après ?
Eh bien, surtout au dernier. Parce qu'avant, je m'étais mis petit à petit. Déjà, moi, j'aime quand même bien l'écrit, la poésie, la matière de la langue. Et puis, c'est vrai qu'avec Google, c'était quand même une de mes sources privilégiées. Alors, parfois, bien sûr, la trame, tout ça, je m'arrangeais pour la retenir à peu près. Mais je revenais au texte pour enrichir le squelette, si tu veux, pour que ce soit pas que n'importe quel mot. Tandis que maintenant, avec Michel Hindenock, le dernier stage qu'on a fait, c'était sur la musicalité. Alors là, ça passait par les oreilles, par la musique du son, des voix, par autre chose, un autre canal aussi. Et puis, il y a 2-3 semaines, à la Nuit du Conte, et puis encore après, dans 2 classes à la Neuville avec des ados, j'ai raconté mon premier conte que j'ai passé sans le regarder, sans le lire, que par les oreilles.
Grâce à ce cours,
grâce à ce dernier stage, oui. Et puis grâce à cet homme qui, lui, nous a plutôt... Mais il était humble, je veux dire, il n'était pas claironnant, vous devez, c'était plutôt... Moi, j'avais aussi envie, parce que j'étais persuadée que je n'avais qu'une mémoire visuelle. Je me disais, oui, mais jamais par les oreilles, je vais retenir quelque chose. Mm-hmm. Ça sera la gabegie. Parce que quand on me disait, attends, mais ah oui, cette phrase, elle est au bas de la page. Non, il y a 3 mots là-haut. Donc, tu vois, je peux... Mm-hmm.
C'est vraiment la mémoire visuelle.
Visuelle, oui. Enfin. Mm-hmm. Et puis maintenant, c'est magique. Et puis en plus, l'histoire que j'ai choisie, c'est une de celles qu'il nous a racontées, lui. Et puis, bien sûr, elle est forte, on est d'accord. Mais de la passer comme ça, alors là, ça m'a bouleversée de voir l'écoute. Des ados, entre autres. Elle était, mais j'aurais jamais pensé.
C'était ta première expérience.
Par rapport à une histoire qui vient que par les oreilles.
Mais tu utilises aussi du matériel, parce que tu utilises des instruments. Je me souviens, d'une coquille de tortue que tu as utilisée.
Oui, c'est une samsa que j'avais achetée à la place centrale, où je ne sais pas, un petit marché africain. Pour les petits, à la bibliothèque, quand c'est entre 3 et 8 ans, disons peut-être un petit peu plus encore. Ben juste moi, j'ai des petites percussions ou bien une petite... Mais bon, là aussi, ça se transforme. Avant, j'avais, si c'était une histoire d'âne ou de cheval, j'avais un petit truc, ou bien d'ours, une peluche, tu vois, pour un peu de serpent, tout ça. Et puis maintenant, j'en suis à un stade où je pense que même ça fait dévier leur imaginaire. Et moi, mon seul but maintenant, c'est d'essayer d'être assez... présente et
sobre
et de donner ce que je peux comme je vois moi. D'ailleurs, Michel Hindenock, c'est ça qui nous a redit. En somme, notre rôle, c'est que nous, on est allé quelque part voir quelque chose qui s'est passé et puis maintenant, on va vous dire ce qu'on a vu. Donc, pour que les autres, comme quand on raconte un souvenir, quand on raconte des vacances ou n'importe, c'est le même principe. Donc, pour pouvoir que l'autre voit ce qu'on a vu, il faut qu'on fasse des images, qu'on soit présent. Pas trop avec des objets.
En fait, c'est vraiment comme le conte original primal.
Voilà,
autour du feu, c'était ce principe-là.
C'est exact. Et puis moi, ça me fascine. L'oralité qui a traversé tous les millénaires et puis qui meurt mais qui revient, et tout ça, c'est absolument fascinant.
Mais c'est ce qu'on fait un peu avec ce podcast. Moi, c'était aussi mon idée, c'était de raconter des histoires. J'adore les histoires. C'est l'idée.
Ouais, c'est la même idée. Et puis chaque personne est une histoire, en vrai.
Mille histoires,
mais bien sûr. Et puis on a encore une chance aussi à Vienne, c'est qu'il y a une telle variété de sources de genre, avec des cultures différentes, des lieux d'où ils viennent. Et ça aussi, quand on ouvre un peu un mythe ou bien une légende, et puis qu'on se dit quoi ? Par exemple, moi, j'ai une histoire que j'aime beaucoup sur le corbeau qui trouve la lumière. Eh bien, j'ai cru d'abord que c'était Gougou qui l'avait écrite. Après, j'ai vu que Michel Hindenock, il l'a dite. Après, j'ai vu que dans un livre que Laurent avait acheté sur les Indiens de l'Ouest, une tribu sur une île, c'est une de leurs histoires première.
Donc c'est de l'imaginaire collectif.
Oui, et puis c'est même un mythe créatif, que le corbeau, c'est comme une sorte de dieu.
Tu t'habillais aussi d'une façon particulière pour raconter des contes. Tu le fais toujours ?
Oui, j'essaye. Pour la nuit du conte où le thème était multicolore, j'avais pris un boa de toutes les couleurs, un foulard de toutes les couleurs. J'avais encore pris un parapluie de plusieurs couleurs avec une marionnette que j'avais faite, puis on a chanté. Et tu vois, j'essaye un peu de mettre le thème autour.
Et l'idée, c'est quoi ? C'est de faire quelque chose de joli ? Qu'est-ce qu'il y a derrière
Là, c'était le thème. Le thème pour que les enfants puissent puissent participer. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est pour ça que le chant ou bien les chansons, de temps en temps, j'en mets, mais j'aimerais en mettre davantage. Ça, c'est aussi des choix d'équilibre et tout. Et puis, c'est pareil avec les images. Là, ce serait pour pouvoir aller avec des gens qui savent pas trop bien le français. Parce qu'il y a aussi ce problème. Mm-hmm. Quand ils lâchent, c'est qu'ils savent pas la langue. Par exemple, moi, ce que j'aime énormément à la Grenouille, à Bienne aussi, c'est qu'ils arrivent à faire des spectacles où tout à coup, le langage est minimum. Mm-hmm. Donc, mais ça, c'est autre chose. Le conte, il est
le
obligé
conte,
quand même d'en mettre un peu.
Par définition, tu dois parler.
Oui, on doit en mettre. Mais j'aimerais balancer aussi par là.
Et puis les habits, alors, c'est pour les amener dans un autre monde, c'est
pour
ça
que, oui, peut-être pour que je sois là une personne pas
une
tout
fée.
À fait. Comme,
une fée
oui, une, peut-être. Mm-hmm. Oui, peut-être. D'ailleurs, c'est rigolo parce que maintenant, il se passe des choses, par exemple, autour de moi. Quand quelqu'un me demande « Tu fais quoi ?» Je dis « Oh, mais je raconte des histoires. » Je peux parfois même pas me retenir. On est dans un bistrot ou bien dans un... Puis je dis « T'en veux une ?» Alors je raconte. Et puis à la montagne, où j'ai mon petit chalet là, sans électricité, il y avait des voisins qui avaient des enfants. Et puis un jour, ils m'ont fait aller chez eux pour prendre le café. Et puis les gamins ont dit « Ah, mais tu racontes ? Mais t'es pas une sorcière alors ?» Donc tu vois, ils ont des images où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on leur a bien dit pour que...
Oui, suivant d'où ils viennent, on peut s'imaginer que les conteurs, c'est le sorcier du village.
C'est bizarre.
Alors que nous, on a plutôt l'idée, enfin, mon imaginaire à moi, c'est plutôt la grand-maman qui raconte des histoires. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-maman qui me racontait des histoires, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui.
T'as de la chance.
Peut-être que, je me dis aussi que c'est peut-être ça que tu fais. Tu disais avant, t'as pas eu d'enfant toi-même, mais là, tu racontes à tous les enfants, en fait. T'as un peu transformé ça pour tout le monde.
Oui.
T'es
peut-être.
La grand-maman de tout le monde, en fait, qui raconte ces histoires-là.
Ah, ça, ce serait cadeau. Mais bon, tu sais, les autres enfants, je les entrevois.
Ouais,
je ne peux pas
sûr,
vraiment c'est... dire que je les connais beaucoup.
Mais au moins, tu leur laisses ce souvenir-là.
Oui, il y a au moins cette rencontre.
Et tu le fais très régulièrement, hein. Tu donnes beaucoup, beaucoup de contes.
En hiver, c'est évident que c'est un peu plus souvent que dans le reste de l'année.
Et t'en choisis des différents chaque fois ou il y en a que tu répètes ?
J'en choisis quand même des différents, mais par exemple pour la période de Noël, c'est pas infini. Mm-hmm. En plus, que surtout s'il faut encore qu'elle me plaise un peu, ces histoires. Donc j'enlève déjà les Pères Noël. Je remarque ces dernières années, depuis que j'ai rencontré ces deux grands conteurs là, et que dans le fond, mon rêve, c'est d'être de plus en plus près de des histoires qui me vont, qui m'habitent, qui se sentent bien dans moi. Pas que ce soit moi toujours qui choisisse, mais j'essaye de les laisser venir pour que je me dise « Ah oui, celle-là, franchement, maintenant je ne veux pas la perdre, elle est là. Si ça se donne, si elle veut bien, elle se donnera à travers moi. »
Mais il y a une partie d'invention dans ces histoires.
Oui, obligatoirement, mais suivant les histoires, pas vraiment énorme par rapport à mon trait de caractère qui est quand même de faire, d'obéir. On dirait pas. Hein.
Non, si, pas vraiment.
Mais si, quand même. Mais surtout de pas perdre le fil. Donc, le canevas, je l'ai. Mm-hmm. Mais par exemple, l'histoire que j'ai choisie pour aujourd'hui, j'ai hésité. Je me suis dit d'abord, est-ce que je prends l'histoire d'un soldat qui rentre de guerre, et puis les guerres, et puis il rencontre une vieille et tout. Bon, non. Je l'aime infiniment, cette histoire-là, mais pas pour ça. Mm-hmm. Et puis pas pour ce Noël, même si réfugié, toc, toc, toc,
on
ouvrir
pourrait,
la porte.
Ça pourrait être d'actualité.
Oui, mais bon. Mm-hmm. Après, comme je te dis, les Pères Noël loin, là loin, la morale, ça me...
Walt Disney, donc on oublie tout de suite.
On oublie les stéréotypes, j'essaye de ne pas y entrer trop. Donc ça se réduit finalement. Mmh. Et puis là, je me dis, attends, qu'est-ce qui me touche ? Eh bien, celle-là, elle me touche. Et puis, tu ne veux pas croire, mais celle que j'ai finalement gardée, elle me touche parce qu'elle m'a rappelé deux, trois choses de mon enfance.
Ah, c'est drôle.
Sur la neige, sur le triangle du village que j'ai rajouté, ça, avec les chevaux. Et puis les odeurs des biscuits de Noël, bon, ça c'est... Donc il a fallu que je passe par mes propres sens à moi et mon souvenir. Puis tout à coup, je me suis dit, ok, celle-là, pourquoi pas.
Quel conte tu as choisi ? C'est un conte de Noël ?
Oui, c'est un conte de Noël, en tout cas de la période de Noël. Ce qui m'a fait peut-être le choisir aussi, c'est le début qui m'a mis dans une ambiance de ce que je pouvais vivre dans les hivers de mon enfance.
Et tu l'as déjà raconté avant de le raconter à Graines Curieuses ?
Je l'ai raconté, mais à la bibliothèque, il y a longtemps, il y a au moins 5 ans, je pense.
Alors on te remercie et puis on t'écoute.
Il était une fois un homme qui s'appelait Nico. C'était un vieil homme. Et cet homme-là, eh bien, il n'avait pas de chance parce qu'il était laid. Les gens du village disaient même « Oh Nico, mais il est laid à faire peur !» Eh bien oui, puis en plus, il était bossu. C'est difficile, ça. Surtout que les moqueries, eh bien, ça foisonne. Oh, Nico, le bossu, ou bien le pauvre, avec sa bosse, ou bien l'ignorance, surtout ne pas le voir. Donc, Nico, eh bien, il vivait avec ça. Et dès qu'il a pu, il a quitté le village pour aller habiter dans la forêt. Il s'est fait une petite maison à lui. Dans le silence de la nature, avec les animaux, là, il était bien. D'accord, il retournait au village de temps en temps, mais le moins possible. Et cet hiver-là, en décembre, il avait neigé pendant 10 jours. Il faisait froid. Et puis, vraiment, mais parfois même, on entendait hurler les loups dans la forêt toute proche. Et puis cette neige, eh ben, il fallait bien déblayer les rues. Alors les hommes du village avaient ressorti le gros triangle de bois, ils l'avaient attelé aux chevaux. Et puis ça, c'était vraiment extraordinaire de voir passer cette machine qui se frayait un chemin puis qui donnait sur les bords de la rue des remparts d'un mètre ou plus même parfois. L'hiver, cette année-là, il était vraiment fort. Vraiment violent, vraiment glacé. Et le soir de Noël, eh bien, le ciel était noir, pas de lune. Par contre, il était plein d'étoiles. Il y avait une brillance sur la neige blanche des toits, des chemins, du village. Et ce jour-là, bien entendu, tout le monde s'était affairé depuis le matin à préparer la fête au mieux. Ils avaient couru dans les magasins, ils avaient installé les belles tables, les sapins, même le grand sapin de l'église qui touchait presque le plafond. Bref, tout était prêt pour réveillonner entre amis et passer une belle fête. Et le soir, les gens bien emmitouflés sortaient de chez eux, en dimanche bien sûr, pour aller à l'église. Ils se saluaient, « Joyeux Noël, mon cher, oui, joyeux Noël !» Et voilà que, là, tout au bout du chemin, ils voient arriver Nico, le bossu. « Oh non, pas lui, pas ce soir !» Et pire encore, à côté de lui, il y avait un loup. Ben oui, mais un loup horrible, avec des poils hérissés, avec des pattes tordu, avec un dos, mais tiens, un dos bossu aussi. Oh, quelle horreur, ce loup ! Ont crié les gens, et vite, ils se sont engouffrés dans l'église, mais vite, vite, vraiment, et on a fermé les portes de bois. Oh ! Et sur la place, Nico et le loup sont restés là, les deux, tout seuls. Alors Nico a dit à son ami le loup, tu vois, Tu vois, tes frères, ils ne veulent plus de toi. Eh ben, t'as vu, les hommes, ils veulent plus de moi non plus. Mais attends, les deux, cette nuit, on va se faire un beau Noël. Et Nico, il a sorti délicatement de dessous son manteau un violon. Et il s'est mis à jouer. Et puis, il était là sur la place vide, tout près de l'église, et il jouait. Et sa musique, elle faisait chanter les étoiles. Et puis en plus, sa musique, eh ben, ça fait que le loup bossu, peu à peu, il a bougé ses oreilles. Et puis on a vu sur la neige les ombres de Nico et du loup qui dansaient. Seulement, dans l'église, les portes étaient tout à fait fermées. Eh bien, c'était bizarre. Les gens étaient mal à l'aise. Ils sentaient comme un vent froid qui passait sur leur nuque, qui descendait vers leur cou. Mais c'est quoi ça? Et puis, ils chantaient, mais quand ils arrêtaient de chanter, ils entendaient le violon de Nico. Alors, ils chantaient plus fort et ils ouvraient encore la bouche plus grand pour ne pas l'entendre. Mais malgré le chant très fort, eh ben, la musique de Nico, elle restait dans leurs oreilles. Et ce vent froid toujours. Donc, sitôt que la messe de minuit s'est terminée, tout le monde est sorti et pas du tout comme d'habitude, ben, ils ont filé chez eux à toute allure et ils ont vite, vite fermé leurs portes. Surtout ne pas voir, surtout ne pas entendre ce violon. Et quand ils étaient chacun dans leur maison, eh bien, les portes fermées pourtant, ce vent froid continuait d'arriver jusque vers eux. Et puis, ils n'étaient pas bien. Ils avaient beau manger, boire, rire, un peu chanter encore peut-être. Rien marchait, ils étaient tristes. Alors pour passer ça, ils chantaient plus fort, ils riaient plus fort, ils mangeaient encore davantage. Mais non, non. Et toujours ce froid et cette musique dehors. Et dans une maison, il y avait une petite fille qui, elle, ne chantait pas, ne riait pas, ne mangeait pas. Elle était près de la fenêtre, le nez collé contre le carreau, et elle regardait Nico et le loup. Et puis, soudain, elle a dit « Oh, mais ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Et instantanément, le froid a disparu. Et quelques personnes avaient entendu la petite fille. Alors, autour de la table, timidement, on a entendu « Oui, au fond, ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Et puis, automatiquement, les gens étaient plus heureux, contents tout à coup. Alors, ils se sont levés, ils sont allés frapper chez les voisins et ils ont dit « Dites, vous trouvez pas, mais ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Et ainsi, peu à peu, tous les gens du village se sont retrouvés sur la place. Et là, vieille Hilda a dit « Ah, on veut danser, d'accord, mais ce sera dans ma grange, c'est la plus grande !» Tout le village, avant d'aller danser dans la grange de la vieille Hilda, ils sont tous partis en cortège sur le chemin du côté de Nico et du loup bossu. Et quand Nico a vu tout ce monde arriver près de lui, bah, il a eu peur franchement et le loup s'est mis à gronder à côté. Alors la petite fille a couru tout près d'eux et elle a dit « Monsieur, joyeux Noël !» Vous savez, nous, on aimerait tellement pouvoir danser au son de votre violon. Et Nico, à ce moment-là, il a souri. Et puis, il s'est mis à jouer un air entraînant. Et le loup a commencé de bouger ses oreilles. Il a aussi souri, lui. Et surtout, tout le village, tous les gens, les vieux, les enfants, les boiteux, tout le monde s'est donné la main pour faire une longue farandole. Et ils sont arrivés à la grange de la vieille Hilda, où ils ont dansé jusqu'au matin. Et depuis ce jour, on dit que dans ce village, les gens trouvent que Nico et le loup, au fond, ils ne sont pas si bossus que ça.
Magnifique. J'ai envie d'applaudir. Merci beaucoup, Janine Worf. C'était vraiment un beau cadeau de nous raconter cette histoire de Noël. Ça nous plonge dans l'ambiance, on a envie de danser maintenant.
C'est bien.
Et tu fais ça vraiment ouais, avec maestria. On va passer un bon moment grâce à toi
Tu
encore.
crois? Mais c'est vrai que ce personnage, il me touche plus. Mais j'y ai pensé forcément ces derniers jours. Et puis là, j'arrivais presque à le voir ici, quoi. Et d'être aussi mal dans son corps, dans sa vie, d'être rejeté constamment, puis quand même de devoir avancer, c'est... Voilà.
Tu disais que ça te rappelait des souvenirs d'enfance, ce serait
Bon,
peut-être notre conclusion. Est-ce que tu as
surtout...
vécu des choses comme ça étant enfant?
Non, bon, pas un monsieur bossu à ce point. Quoique, il y en a un qui venait vendre avec un... C'était un colporteur. Mais lui, il n'était pas misérable. Il était juste bossu avec sa petite charrette, puis il vendait des choses dans les maisons. Par contre, il y en avait d'autres qui étaient démunis, puis qui étaient un peu limites du point de vue psychisme. Et c'était pire que des bosses aussi, ça. Parce que la moquerie, elle était là. Et puis surtout le dédain, c'est celui-là avec son prénom. Et puis, bon. Et je pense aussi quand même que mes parents, et puis mon entourage, ils étaient sensibles au respect des autres. Ben, par exemple, ce monsieur-là dont je te parle, il s'appuyait sur son vélo, il sortait très souvent du bistrot, évidemment, il devait encore plus s'appuyer sur son vélo. Mais quand il venait chez nous, de toute façon, tout était ouvert, la porte, il passait dans le corridor, il arrivait à la cuisine, il toquait juste un peu à la porte, puis là, ben, il était accueilli. Il pouvait boire un café ou bien parler un moment avec ma maman ou avec mon père s'il était aussi là. Donc c'était quelque chose qui était... Oui, moi je dis merci à mes parents de m'avoir permis d'être ouverte un peu aux différences, puis à respecter, et plutôt que de se moquer.
C'est une très belle conclusion. On va peut-être souhaiter ça à tous ceux qui se sentent un petit peu isolés pendant les fêtes. On espère que ce podcast va leur parvenir d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas, hein? Parfois les détours. En tout cas, un grand, grand merci, Janine Worth.
Mais je t'en prie.
Et puis peut-être une fois, une autre histoire.
Oui, volontiers. Le
Merci
prince
beaucoup.
serpent.
Oh, alors magnifique. Mais oui, volontiers. Merci.
D'accord.
J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un courriel à info@grainesdecurieuses.ch ou sur la page Facebook dédiée à ce podcast. Avec un peu de chance, elle figurera au livre d'or de cette émission. La semaine prochaine, je vous réserve une autre surprise avec un épisode spécial Nouvel An. Cette fois, ce sera au tour d'une lectrice à voix haute de se dévoiler et cerise sur le gâteau, elle nous lira une histoire qui se passe dans le Grand Nord canadien. J'ai nommé Jacqueline Alaba Prébandier, lectrice à voix haute, née à Neuchâtel, venue s'établir à Nice il y a pas mal d'années. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Soyez heureux et à vendredi!